la gauche s'est suicidée. Il y a un certain nombre de leaders de gauche auxquels j'en veux à mort.
Il s'est fait seul, entièrement seul, industriel. Il a gagné beaucoup d'argent et aussi perdu des sommes folles dans les journaux qu'il a créés et financés. Le Nouvel Obs en 1964, mais aussi Le Sauvage, mais aussi Les Matins de Paris. Claude Perdriel a fait la campagne de François Mitterrand en 1974. Lui, le mendéciste. Lui, le fervent partisan d'une gauche qui épouse l'économie de marché. Lui, plaidant sans relâche pour la social-démocratie. Ces journaux pâtiront pourtant de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Il les renfloue, il les porte haut, puis il les abandonne. En 1987, enfin, il rachète Challenge et reconstitue un petit groupe de presse autour de cet hebdomadaire libéral. Challenge, nouvelle formule et grande enquête sur l'état de la France. Claude Perdriel, 94 ans, ne regarde jamais en arrière sans penser d'abord à l'avenir. Entretien exceptionnel. Nous en diffusons ce matin le premier quart d'heure. Il se poursuivra en podcast. La version longue, disponible sur le site et l'appli de France Inter ou celle de Radio France dans une poignée de minutes.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Claude Perdriel.
Bonjour Sonia.
Soyez le bienvenu à France
Merci,
Inter.
Merci, c'est toujours agréable d'entendre ce genre de propos.
Il y a deux choses qui vous caractérisent, Claude Perdriel. C'est que vous n'avez jamais été journaliste, mais vous avez toujours été patron de presse. Qu'est-ce que c'est qu'un patron de presse ?
C'est pas tout à fait vrai que je ne suis pas journaliste, parce que j'ai quand même pendant 7 ans dirigé la rédaction du Matin, qui était un, je crois, un très bon journal. En tout cas, tous ceux qui sont encore vivants me le répètent souvent. On vendait 130 000 exemplaires. Les lecteurs l'aimaient, mais nous perdions de l'argent. C'est un fait, le capitalisme ne permettait pas au Matin de continuer à exister. De même que quand j'ai été obligé d'abandonner l'Observateur, c'est parce que les pertes de l'Observateur, pour un journal totalement indépendant comme l'est d'ailleurs Challenge, eh bien je ne pouvais plus les assumer. Donc j'ai été obligé là aussi de donner l'Observateur.
Ça a été deux grands regrets ?
Non. Parce que j'ai toujours vécu, bien sûr, j'ai un peu de regret, et surtout dans ces temps troublés, où le Matin et l'Observateur seraient utiles et sont utiles pour l'Observateur. Mais pour revenir à ce métier que j'aime et que je défends, je pense que, et ça joue aussi pour le numéro de Challenge dont je suis venu vous parler, oui. Parce que mon ambition pour Challenge avec les 70-80 journalistes de Challenge est très grande, c'est que je pense que la presse écrite est un élément constitutif de la démocratie. Je dis bien la presse écrite et pas la presse internet, qui peut être très intéressante, mais le réseau ne comporte pas la déontologie de la presse écrite et il est, nous le savons tous, plus dangereux.
Je vous interromps juste une minute. Aujourd'hui, il y a des grands organes de presse comme Mediapart, par exemple, qui se sont constitués uniquement en pure player, comme on dit, et aux États-Unis, des grands sites d'information, à l'étranger, en Angleterre aussi, avec des journalistes d'expérience que vous avez connus ailleurs. Ça vous fait sourire ?
Oui. Je ne crois pas un instant que les pure players ont les mêmes règles que la presse écrite. Je ne crois pas un instant en l'absence totale de corde de rappel dans la presse écrite. D'abord, les lois sont très précises et très dures. Vous mettez quelqu'un en question, vous avez eu tort, il vous écrit, vous êtes obligé de faire la parution, mais dans les jours qui suivent, pour dire « je me suis trompé, il a eu tort, la justice m'oblige à écrire que je me suis trompé ». Vous n'avez pas ça dans le pure player. Vous n'avez aucune corde de rappel, c'est la vie.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que demandez par exemple à Edoui Plenel et à la rédaction de Mediapart combien de fois ils ont été traînés en justice. Parfois, ils ont gagné, parfois, ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à la loi de 1881, comme nous tous.
Écoutez, pour ce qui est d'Edoui Plenel, qui est un homme intelligent, très intelligent, que j'ai bien connu du temps où il était au Monde, je pense qu'il ne respecte en rien les règles de déontologie de la presse. Je vous ai apporté la charte de challenge que respectent les journalistes. Vous verrez à quel point elle est contraignante pour l'actionnaire que je suis, mais elle est tout aussi contraignante, les pauvres, pour les journalistes de challenge que je soutiens et que je défends. Je vous en cite quelques-unes. On essaye d'éviter de parler de la vie privée des gens, chose que Mediapart adore, soit dit en passant. Deuxièmement, j'ai dit un jour récemment à un de mes amis journalistes, Philippe Labrault, disait « Dans Challenge, on vérifie tout plusieurs fois ». Il dit « Comment ça plusieurs fois ?» 5-6 fois, j'espère. C'est-à-dire, quand on affirme quelque chose, on a fait une enquête complète dans Mediapart sur un témoignage qui n'est pas forcément vérifié, vous le lancez. Puis après, on découvre que ce n'est pas tout à fait exact.
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur leur qualité d'investigation, mais là n'est pas le débat. Ce qui est intéressant, c'est
mais
que vous dites...
Mais moi, je déteste l'investigation. Je suis pour l'enquête.
Et quelle est la différence entre l'enquête et l'investigation que vous détestez ?
L'investigation va chercher, dans les ressorts privés, ce qui peut contribuer à défendre une thèse et contribuer à attaquer quelqu'un. Il n'y a pas de grands hommes pour son valet de chambre. C'est vu du point de vue du valet de chambre. Alors, bien entendu, ça peut être parfaitement exact. Mais chacun a le droit d'avoir des petits travers, ce qui ne veut pas dire pour ça que c'est un homme inintéressant. Chacun a le droit d'avoir ses petits mensonges, ce qui ne veut pas dire par là que c'est un menteur.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites Challenge, un journal indépendant. Ce journal n'est plus complètement indépendant. C'est-à-dire que vous avez fait rentrer LVMH et Bernard Arnault, qui est un grand groupe au capital. C'est intéressant, votre notion de l'indépendance.
Alors, je vous reprends la charte de Challenge. Je pense qu'elle est unique.
Oui.
Elle est parue dans le journal. La totalité des journalistes l'ont approuvé et signé, mais ils n'ont pas signé, ils l'ont approuvé. Ça a été fait avec eux pendant plusieurs années. Challenge, je vais vous lire le préambule, Challenge se définit comme un magazine économique et politique non partisan et indépendant, notamment vis-à-vis des pouvoirs politiques, financiers, des annonceurs et de l'actionnaire. Challenge respecte le pluralisme des opinions. Les journalistes adhèrent à l'économie sociale de marché avec ses corollaires, la défense d'une économie ouverte, humaniste et de progrès. Elle est constitutive de l'identité de Challenge. Je ne vais pas vous lire les 3 pages. Mais jamais il n'est arrivé qu'un journaliste de Challenge se voit demander d'écrire quelque chose ou imposer quelque chose. J'ai un amour de ce journal, je défends ce journal. Challenge a une petite caractéristique qui n'est pas toujours vraie chez tout le monde. C'est que Challenge, nous pensons que notre lecteur est intelligent. À partir de ce credo, nous essayons de lui donner le maximum d'informations pour qu'il puisse se faire une opinion. Si après ça, par exemple, moi qui suis scientifique pour les vaccins, etc., un lecteur de Challenge est encore anti-vax, ça peut arriver, ben ça veut dire qu'on a mal fait notre métier. C'est que je ne lui ai pas donné suffisamment d'arguments pour lui expliquer pourquoi il faut se faire vacciner.
Mais ce qui prouve que vous ne le laissez pas du tout libre de choisir, c'est que vous avez précède votre enquête.
Non, pas du tout. Je pense que les lecteurs ne sont libres, et les électeurs et les Français ne sont libres, que si on leur donne une information complète et suffisante.
Est-ce que Challenge a des combats ? On a l'impression aujourd'hui que les combats se font ailleurs que dans la presse. Que la presse peut au mieux les épouser, au mieux les suivre, au mieux les relayer.
L'Observateur a été un journal de gauche. La gauche social-démocrate, celle de Mendès France, celle de Jacques Delors, qui est devenue celle de Mitterrand. Mais il est né avec le mouvement intellectuel des années 50-60. Il y avait à ce moment-là une vitalité intellectuelle dont l'Observateur a été l'expression, et c'est ça qui a fait sa réussite. Aujourd'hui, il n'y a plus ce mouvement intellectuel, pas suffisamment. Je dis avec tristesse que il n'y a pas assez d'intellectuels célèbres et qui parlent, parce que un pays qui n'a pas d'intellectuels est un pays qui se porte mal. Mais Challenge n'essaye pas de ressembler à l'Observateur, d'abord parce que nous ne sommes plus en 1960.
Non, bien entendu.
Et ensuite, les temps ont changé. Notre combat, s'il y en a un, c'est le combat de la vérité. Il y a aujourd'hui une chose d'ailleurs effrayante, les Français ne croient plus dans leurs hommes politiques pour enrayer le déclin. Ils croient encore pour un certain nombre dans le président Macron, mais ils ne sont même pas majoritaires. Et, soit dit en passant, ils ne croient plus non plus dans leurs journalistes. Aujourd'hui, trop souvent, eh bien, les journalistes donnent une opinion. Nous ne sommes, alors c'est un peu bateau, pardonnez-moi, je ne veux pas reprendre Macron, mais nous ne sommes ni de gauche, ni de droite.
Mais pourquoi est-ce si grave, Claude Perdriel, d'être un journal de gauche ou d'être un journal de droite? Vous qui avez grandi dans une presse qui était fière d'être de gauche ou fière d'être de droite?
Écoutez, d'abord, je ne trouve pas que ce soit grave d'être de gauche ou de droite.
Ah bah, vous me rassurez.
Ce qui serait grave, c'est n'être ni de l'un ni de l'autre. Moi, je suis de gauche, mais je ne demande pas aux journalistes de Challenge de l'être. Au fond, en principe, un homme de gauche est quelqu'un qui souhaite défendre des idées qui rendent le plus de gens heureux ou moins malheureux possible. Je pense qu'un homme de droite peut avoir exactement la même idée. Et je suis plus proche d'un homme de droite qui se fait une idée de ce qu'il faut faire pour que les gens soient heureux ou moins malheureux. Je me sens plus proche de lui que de celui qui n'est ni de gauche ni de droite parce qu'il s'en fout et qu'il laisse tomber les gens. Donc, il ne faut pas me dire qu'on a abandonné. Nous avons, dans Challenge, une partie politique très importante avec une équipe formidable sous la direction d'un journaliste, Thierry Fabre, pour qui j'ai estime et admiration. Sous la direction, n'attendez pas de moi que je ne sois pas passionné par le journal, j'aime les gens qui le font et j'aime travailler chaque jour pour eux et avec eux. Car je dis bien que je travaille pour eux, au moins autant qu'avec eux. Mais nous avons à Challenge, après cette partie politique avec tous ces journalistes, une équipe remarquable d'éditorialistes, avec un pluralisme d'opinions. Là-dessus, les lecteurs choisiront. Guylaine Othénémer, Comte Sponville, Maurice Safran, nous avons Nicolas Doménac, nous avons l'ancien directeur de la rédaction.
Vous avez eu Bruno Roger Petit, qui lui est passé de l'autre côté de la barrière.
Eh oui.
Qui est devenu conseiller d'Emmanuel Macron.
Oui, mais Bruno Roger Petit était favorable à Macron quand il était au journal. Il était éditorialiste. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les journalistes, justement, le trouvaient trop engagé, trop associé à quelqu'un comme Macron, que nous respectons, tous. Et donc, par conséquent, il écrivait sur le net. D'accord. Une fois de plus, le net, c'est un peu moins bien que l'écrit.
Et toc. J'ai retrouvé une phrase de Pierre Mendès France, figure tutélaire du Nouvel Obs, qui en 1964, au moment où vous faites sortir de terre ce journal, s'adresse aux équipes et dit « Si nous n'arrivons pas à faire ce journal, nous confirmerons ce qui est dit sur nous, que la gauche est impuissante, rêveuse, crépusculaire, divisée, qu'elle n'a qu'une peur, la réussite et l'unité. » Claude Perdriel, réentendre cette phrase aujourd'hui que la gauche n'a plus qu'une peur, la réussite et l'unité, ça fait un drôle d'effet.
Écoutez, ça, je n'ai pas envie de parler de ça. La gauche s'est suicidée. Un certain nombre de gens, j'ai pas envie, dans ce micro, de dire du mal des uns et des autres. Mais il y a un certain nombre de leaders de gauche auxquels j'en veux à mort. François Mitterrand avait réussi. Moi, j'ai vécu, dans les années 60, pendant 20 ans, avec un pouvoir de droite. La gauche était minoritaire. Là-dessus, Mitterrand arrive, réussi à rassembler tout le monde et à rassembler la gauche presque la plus à gauche, si j'ose dire, l'extrême gauche, mais aussi les madésistes, les gens qui croyaient à la social-démocratie. Et il entraîne le Parti socialiste vers une social-démocratie, un respect du marché. Il crée ce miracle et il devient le leader de la gauche et il devient président de la République pendant 14 ans. C'était un miracle. Ce que plein de leaders actuels de la gauche, ils ont cru qu'ils étaient propriétaires de l'héritage. Non, cet héritage, il fallait l'entretenir. Mitterrand était un homme qui avait un talent et une émotion. Moi, je me souviens, à Marseille, puisque un jour j'ai fait sa campagne électorale, à Marseille,
en 74.
À Toulouse, je l'ai vu faire pleurer 10 000 personnes. C'était terrible. Pourquoi ? Parce qu'il parlait des pauvres, et dans un pays du Sud, il parlait des rapatriés d'Algérie en disant qu'il fallait s'en occuper et que les colons avaient peut-être eu des torts, mais que c'était des Français et qu'il fallait les aider. Et c'était très émouvant. Et puis voilà, l'héritage de Mitterrand a été bradé par des batailles personnelles, des rancunes personnelles. Et puis, il faut bien le dire aussi, l'extrême-gauche militante, qui était à l'Observateur, l'a emporté et finalement a fait partir toute la gauche social-démocrate.
Vous aviez, pour François Mitterrand, écrit ce slogan « La seule idée de la droite, garder le pouvoir, mon premier projet, vous le rendre ». Génial.
C'était gentil. Je vous remercie de le rappeler. Mais ça a été le slogan de la campagne de 74. J'en étais très fier. J'ai été accusé par la droite d'avoir trouvé un slogan ridicule. Je pourrais vous montrer des citations montrant que j'étais attaqué. Et pourtant, je trouve que c'était un très beau texte.
En 1973, Claude Perdriel, vous avez créé un journal écolo, un mensuel écologiste, Le Sauvage. C'est-à-dire que Jean Daniel n'y croyait pas à l'écologie au Nouvel Obs.
Non.
Et vous, vous y croyez. Et vous y croyez en qualité de scientifique. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.
J'y croyais, bien sûr. J'y croyais pour toutes les raisons que nous voyons maintenant.
Oui, mais on était en 73.
Mais je croyais à une écologie responsable. C'est-à-dire qu'à l'époque en particulier, il y avait une bataille qui traversait l'écologie sur le nucléaire. Alors à ce moment-là, il y avait la possibilité d'avoir un nucléaire propre, et puis il y avait un nucléaire qui pouvait être dangereux, qui diffusait de la radioactivité, et puis il y avait les antinucléaires. Le journal Le Sauvage était pour rechercher un nucléaire propre sans radioactivité. D'ailleurs, je signale qu'il y a toujours une possibilité de faire un nucléaire sans radioactivité, et on devrait dépenser beaucoup plus d'argent pour faire de l'énergie qui n'aurait plus de radioactivité, qui perdrait son côté dangereux.
C'est le polytechnicien qui parle.
Et nous étions pour. Et le journal, là aussi, il a existé pendant 9 ans. Je suis fier d'avoir fait ce journal. J'aimais ce journal. Mais malheureusement, un jour, l'Observateur perdait trop d'argent. Mes amis sont venus me dire, bah, dis donc, Claude, quand même, on n'a pas les moyens. Et j'étais obligé d'arrêter.
Un jour, vous avez fait venir Alain Minc, justement, au début des années 80, quand le Nouvel Observateur perd de l'argent et que vous êtes quasiment au bord de la faillite. Il audite le journal et il vous dit, il faut couper, réduire les dépenses, économiser sur tous les postes et virer 45 journalistes. Vous lui répondez, dit-on, parfait, je vais embaucher, augmenter la pagination, passer à la quadrichromie et accroître le budget marketing. Face à une crise, si on économise, on s'enfonce. C'est exactement ce qui s'est passé dans la presse ces dernières années.
C'est exactement ce que je pense. En l'occurrence, en 80, ça a marché. 10 ans plus tard, on était à 500 000 exemplaires alors qu'on venait de 300. C'est exactement ce qui se passe pour Challenge. Aujourd'hui, mais en même temps, c'est d'une tristesse infinie, c'est l'évidence. Vous lisez tous les jours, dans un certain nombre de journaux, je ne reproche pas aux directeurs de journaux, ils sont acculés, ils font des économies, sans se rendre compte que l'année d'après, ça ira encore plus mal, parce qu'ils auront perdu des lecteurs. D'abord parce que les journalistes ont leur lecteur ami, on retrouve un journaliste qu'on a plaisir à lire. En plus, les journalistes qui s'en vont dans les plans d'économie, pardonnez-moi, ce sont les meilleurs, parce que ceux-là, ils ont une chance de retrouver du travail plus facilement, et ils retrouvent du travail quand ils sont bons, bien sûr. Et donc, ils appauvrissent le contenu rédactionnel. C'est là où ce que je dis, la culture, c'est pas ce qu'on lit tous les jours, c'est l'analyse du passé qui permet de comprendre le présent. Un journaliste qui a 10 ans, 15 ans de métier dans un domaine, eh bien, il va tout de suite beaucoup plus loin pour comprendre et vous expliquer ce qui se passe.
Comment vous expliquez, Claude Perdriel, que vous qui avez été si proche de François Mitterrand, qu'il avait porté d'une certaine manière au pouvoir, vous expliquez que le Matin de Paris ait été si mal après 81, que le Nouvel Obs ait été si mal après 81. Robert Hersant, en 81, vous dit, Robert Hersant, c'était le papivore, c'était le grand patron de presse de droite et propriétaire du Figaro. Il vous dit, attention Claude Perdriel, c'est le début de la fin, ces gens-là ne supporteront pas la critique. Moi, j'ai mis Giscard au pouvoir, ça ne m'a amené que des ennuis.
Oui, il éclate de rire. Il me dit, vous savez, je dirige le Figaro, grand quotidien de droite. En 7 ans, Giscard ne m'a jamais reçu. Alors, vous allez voir maintenant ce qui va vous arriver. Mais on n'y peut rien. Un journal, par nature, est forcément un anti-pouvoir. C'est très simple. Ou bien dans un journal, d'ailleurs ça me fait penser à Edoui Plenel. Qu'est-ce que je reproche à Plenel ?
Le fondateur de Mediapart.
Voilà, c'est que lui il veut un pouvoir. C'est un ancien trotskiste qui veut faire sauter la société. Bravo, c'est respectable. Mais moi je ne lis pas Mediapart ou je n'écoute pas Mediapart parce que il veut m'imposer quelque chose. Il veut imposer un pouvoir du journaliste. Le journaliste, le jour où il veut imposer un pouvoir, ce qui est quelque chose de fréquent, il perd son talent, il perd le, comment dirais-je, l'honneur de son métier. Il n'est plus vraiment un journaliste. Alors, pour ce qui est de Mitterrand, j'avais beaucoup d'admiration et même d'amitié pour Mitterrand. C'était un homme très attirant par sa culture. J'étais très ami avec lui jusqu'au jour de l'élection. Je peux vous dire que la veille de l'élection de 81, il était élu le lendemain, dimanche. Il m'invitait à déjeuner. On était tous les deux pour manger une omelette aux truffes parce qu'il venait de recevoir des truffes. Je m'en souviens encore d'un de ses admirateurs. Mais le jour où il a été élu, il était le pouvoir. Donc on ne pouvait plus être d'accord. Et en plus, il y avait une autre raison. C'est que j'ai toujours été toute ma vie influencé par Mendès France, c'est un homme pour qui j'ai eu une admiration et une affection, si j'ose dire, très grande. Et donc, on était dans l'opposition le lundi d'après.
Oui.
Donc forcément, tout allait mal.
Je me suis demandé pourquoi...
On était un contre-pouvoir.
Votre génération de papivores n'a jamais cherché à s'étendre en dehors des frontières françaises à l'image d'un Berlusconi italien ou d'un Murdoch australo-américain. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont jamais cherché à créer des empires de presse. Peut-être parce que leur rapport à la presse n'était qu'un rapport d'influence politique.
Par définition, les journaux de gauche ont moins de publicité que les autres. On ne peut pas en vouloir au patron d'être un peu plus de droite et un peu plus capitaliste que les gens de gauche. Donc par conséquent, ils ont déjà du mal à vivre et à survivre. J'ai soutenu les journaux pendant toute ma vie.
Vous y avez perdu beaucoup d'argent.
Si je faisais l'addition, je préfère ne pas le faire, je serais impressionné. Donc voilà, la presse française, après 45, a été formidable parce que les communistes ont imposé que le gouvernement aide la presse française. Les gouvernements ont aidé la presse énormément. Les journalistes ont été bien payés, ils en ont profité. Les ouvriers du livre ont été très, très, très protégés et bien payés, ils en ont profité. Mais ça nous a créé une presse qui était subventionnée, aider. Le jour où, je crois que c'est Chirac, a accepté que les entrepreneurs de presse étrangers puissent venir acheter des journaux en France. Ce jour-là, on était mort. Vous le savez, par exemple, aujourd'hui, dans un journal, il n'est pas rare qu'en plus des 5 semaines de vacances, on ait 4, 5, 6 semaines de vacances en plus. Mais ça coûte une fortune. Oui. On n'a pas les moyens de se le payer. Donc, demander aux entrepreneurs de presse français de devenir des Berlusconi et des Murdoch, Dieu merci. Je ne souhaite à personne d'être un Murdoch ou un Berlusconi, mais en tout cas, il n'y a aucune chance sur le plan du capitalisme.
Je vous pose une dernière question, Claude Perdriel. Il y a un moment, vous avez pensé à racheter France Soir ?
Assez complexe. En 1974, on avait été battu avec Mitterrand, mais de peu. On a eu, Mitterrand avait eu 49,7 et Giscard 50,3. Et puis, il m'invite à faire un voyage en Russie. Il est invité par le gouvernement russe et il m'invite avec un ou deux autres journalistes. Il y avait d'ailleurs Jean-Daniel Colombani, qui était le représentant de la Société des journalistes de François, et moi, à faire un voyage en Russie. Pendant tout le voyage aller-retour, j'étais à côté de Roger Colombani, représentant de la SDJ de François, qui me dit « c'est une catastrophe, François va à la catastrophe, il faut créer un quotidien, Claude, vous devriez créer un quotidien, etc. » Et quand je suis revenu, j'ai proposé aux actionnaires de l'Observateur et aux journalistes de créer un quotidien, et de créer Le Matin. Et c'est comme ça que Le Matin a été créé. Il s'est passé qu'il est venu beaucoup de journalistes de François.
Mais vous n'avez pas repris François.
Ah non, non. Mais j'ai fait... Je dis « je » parce que vraiment, je l'ai voulu, ce journal. Mais j'ai ouvert la porte. Je me souviens, on m'avait prêté un local, Place des Victoires à Paris. Et j'ai dit à tous les journalistes qui veulent travailler dans le journal que je vous explique, venez. Et on a eu un journal avec que des journalistes de moins de 30 ans. Qui croyaient, qui se battaient comme des chiens pour faire la meilleure information possible. Il était de bon ton, chez certains, de les tourner en ridicule parce que tous ces jeunes, à quoi croient-ils ? Mais ils ont fait un journal formidable.
Mmh. D'ailleurs, c'est fou, hein, aujourd'hui, le nombre de journalistes de télé, de grandes plumes de la presse, qui ont fait leur classe chez vous au Matin de Paris.
Je crois.
Merci beaucoup, Claude Perdriel, d'être venu nous confier vos convictions et vos souvenirs. Challenge, nouvelle formule, et donc en kiosque. Merci beaucoup.
Merci.